Alors en fait, on enchaîne, juste un petit changement de place. Et donc effectivement, ma collègue qui arrive. Et puis on va laisser la place du coup à Karine Laya-Burns qui va effectivement vous parler des standards de pratique dans ce qui est le patient simulé, qui est docteur en sciences de l'éducation, psychologue et psychothérapeute et spécialiste, on peut dire, des patients simulés.
Je fais une petite slide pour, voilà, pour vous présenter mon accent, puisque je viens de Suisse, à côté francophone. Sur le programme, on m'a mis Genève. Alors oui, c'est là où, en fait, j'ai grandi dans le domaine des patients simulés, dans le sens où j'ai été formée par une des élèves de Howard Barhaus. J'ai eu cette grande chance. Les patients simulés en Suisse, ça a été presque une des premières, je dirais, techniques ou méthodologies qui a pris de l'ampleur dans les études de médecine. Déjà en 1993 à Genève, que ça a offert une réforme des études, et ça a été mis en place. Et puis, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer aussi à la mise en place des ECOS, donc les examens cliniques objectifs structurés, pour la fin de certification des étudiants de médecine. On a eu des projets pilotes, maintenant c'est en cours, pour les 5 facultés suisses en fin de formation. C'est sanctionné par un ECOS. Voilà, dans le programme, j'ai mis en place un programme de patients simulés pour les médecins à Lausanne, mais également ensuite pour les soins infirmiers, pour les sages-femmes. J'ai contribué, j'ai eu cette chance de pouvoir collaborer aussi avec les physios, avec les techniciens en radiologie médicale, les psychologues, etc. À côté de ça, au fur et à mesure de ma formation et de mon développement professionnel, j'ai vu l'importance aussi d'y associer les techniques de théâtre. Donc, je me suis formée un peu à l'improvisation conservatoire. Et c'est un bonheur que de pouvoir aussi être membre. Et j'étais responsable du comité international de l'Association des éducateurs de patients simulés, où Anne et moi, on a un certain nombre de projets et puis où on se réjouit beaucoup de pouvoir aussi vous présenter cette association et voir de quelle manière elle pourrait vous soutenir. Donc, on m'a donné quelques missions pour aujourd'hui. Définir ce que c'est un patient simulé, standardisé, les activités principales et les missions de l'association des formateurs ou éducateurs. En anglais, ils disent educators, mais moi je préfère le traduire par formateur, mais ça va être un des enjeux justement aussi à discuter dans la traduction des standards de pratique. Donc de l'ASPI, vous la présenter, introduire ces standards qui viennent d'être publiés, et puis surtout prendre un temps avec vous pour présenter, pour discuter les bénéfices et les défis de cette méthodologie. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans votre contexte, en France, c'est que vous avez eu cette traduction et je dirais définition posée par la Haute Autorité de Santé. Ce qui a permis de pouvoir mettre sous le même toit les différents moyens de ces simulations et dans quel contexte elles peuvent être utilisées. Ça, c'était tout un travail en Suisse, je dois dire, parce qu'il y a le milieu du mannequin qui s'est développé, puis après, il y avait aussi le milieu des patients simulés, et puis de tout remettre sous le même toit, et bien vous avez pu profiter aussi de toutes ces expériences pour qu'en 2009, ce soit mis en place et que ça vous donne un cadre national, une grande force. Alors, quelques définitions, je dirais, de ce que c'est du patient simulé, ou standardisé, qu'on utilise de manière interchangeable, mais je pense que ça a été aussi défini, on reviendra sur quand utiliser patients simulés ou standardisés. C'est des personnes, et on ne le dira jamais assez, qui sont formées, quel que soit leur background, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient personnes à la retraite, qu'ils soient tout venant, sans formation médicale, c'est des personnes qui sont formées à jouer l'histoire d'un patient, pour que ce soit réaliste, pour que dans les contextes notamment où il y a des examens, ce soit standardisé pour qu'on assure cette équité de traitement et que ce soit reproductible dans le temps ou de salle en salle si vous avez plusieurs salles où se joue le même jeu. Les patients simulés, moi je dirais avant tout, mais c'est mon positionnement, ils contribuent à l'enseignement. Là, ça a été dit, utilise, je reviens là-dessus, pour moi, on travaille avec de l'humain, c'est des personnes qui font partie de l'équipe de formation, avec qui on collabore pour pouvoir former les étudiants. Donc pour moi, c'est une contribution. Et avant tout, cette méthodologie, je pense qu'elle est extrêmement puissante dans un domaine d'enseignement. D'enseignement, pourquoi ? Parce que c'est l'occasion de pouvoir recevoir du feedback des différentes personnes à 360 degrés, où le patient, même si c'est un faux patient, eh bien, il peut donner son retour sur la base de son vécu, ce qui n'est pas toujours le cas, et très peu le cas en clinique. Également, beaucoup de développement du reste des années 70 dans l'évaluation, déjà dans les années 60 avec Howard Barrows, où on a mis en place les Écosses, et donc toute cette implication sur l'évaluation des compétences des étudiants, comme une biopsie, dit Howard Barrows. Les patients peuvent être formés au feedback. Je pense que ça, c'est vraiment un des pouvoirs formateurs essentiels, une manière unique de recevoir cette perspective du patient. Et ils peuvent être aussi formés à évaluer les performances. Donc, non seulement de donner leur perspective de patient simulé, mais par exemple aux États-Unis, ou dans certains contextes bien spécifiques où ils sont formés, à nouveau j'insiste, les patients simulés remplissent les grilles des évaluateurs. Et dans les Écosses, au niveau américain, ils sont formés de telle manière qu'il n'y a plus d'évaluateurs dans la salle, c'est filmé, et s'il y a recours, à ce moment-là, on va reprendre le film, etc., pour voir s'il y a eu problème. Mais c'est la mise en place vraiment d'une énorme structure derrière. Je n'ai pas pu faire autrement que de reprendre de manière historique la définition que Howard Barrows posait. Donc, les patients simulés ou standardisés sont des personnes sans formation particulière, je le note, ça relance un petit peu le débat, qui sont entraînés à simuler un vrai patient de manière, de nouveau, reproductible, standard, un patient bien entraîné, validé comme crédible par un clinicien averti, ça c'est aussi important, je trouve que ça donne une dynamique, je distille un petit peu au fur et à mesure ces informations sur aussi comment on peut se structurer ou des pistes de structuration de vos propres programmes, parce que j'ai cru comprendre que c'est vraiment un enjeu majeur maintenant au sein de la France, c'est que pour valider crédible un jeu, il y a un formateur de patients simulés, mais il y a aussi un auteur de poste qui a monté le scénario, qui a monté le cas, qui est peut-être l'enseignant référent, et qui vient, en fin de formation, valider que les jeux sont crédibles et donc qu'on peut lancer la formation. Donc, les patients simulés, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Je dois vous dire que c'est beaucoup de choses pour une seule personne. Ils jouent. Anne l'a dit, l'histoire du patient, les signes physiques, le comportement non-verbal, les réactions émotionnelles, la personnalité du patient. Mais il peut être aussi formé à remplir des grilles d'observation, que ce soit d'un point de vue de patient, je vous le rappelle, ou de professionnel, d'enseignant, entre guillemets, et aussi à donner du feedback de manière constructive. Ce feedback, qui est vraiment central, parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment ce pouvoir formateur de ce type de programme, surtout à un niveau enseignement, eh bien, il peut être donné de manière individualisée. Souvent, ce qui est privilégié, c'est qu'il est donné de manière immédiate. On peut utiliser la vidéo ou non, et c'est basé sur le vécu, sur son expérience, de la confiance qu'il a eue, de l'écoute qu'il a eue de la part de l'étudiant, tous ces aspects relationnels qui sont propres à cette situation, à ce qui s'est vécu. Et puis, on peut aussi les former à donner du feedback écrit sur la base de grilles d'observation ou de commentaires écrits. Mais là aussi, ça se prépare, savoir de quelle manière on s'adresse quand son commentaire va être lu par un étudiant. On en a parlé. En Angleterre, notamment, une collègue, Karen Reynolds, elle a mis en place, c'est un des endroits en Europe, je dirais, qui est vraiment très intéressant pour ce type d'expérience, où on a des assistants de formation en gynécologie, donc des dames qui se prêtent à l'examen et qui peuvent donner un retour non seulement sur les compétences techniques, mais comme elles ont vécu l'examen gynécologique, eh bien la manière dont ça a été fait, et donc c'est extrêmement pointu, et pas pour relancer le débat, mais voilà, bon, Antonia n'est plus là, mais C'est sûr qu'un bout de plastique ne donne pas ce retour-là. Il y a une évolution des termes de patients simulés ou standardisés. Maintenant, il y a des proches simulés, il y a des étudiants simulés. On a travaillé dans un contexte où on formait les étudiants à apprendre, à pouvoir coacher d'autres étudiants, donc à développer des compétences pédagogiques. Et à cet effet, eh bien, on a formé des étudiants simulés. Il y a des professionnels simulés, il y a des très beaux exemples, notamment Imperial College dans l'équipe de Roger Nibone, où je vous conseille d'aller lire avec Debra Nestel. Ils ont écrit un certain nombre d'articles là-dessus sur comment former des patients simulés, des non-professionnels de la santé à être des professionnels simulés. Dynamique d'équipe, donc des membres d'équipe. Ça, on travaille avec ce type de méthodologie bien au-delà de la médecine et des professionnels de la santé. Aussi en droit, en travail social, en police. J'ai des collègues qui ont travaillé aussi en architecture sur comment gérer un projet. Donc finalement, le terme évolue et on parle de plus en plus de participants simulés ou standardisés. Les publics de formation, les niveaux, ça peut être vraiment de tout niveau. Moi, j'ai une grosse expérience, enfin, j'ai travaillé une quinzaine d'années au niveau bachelor, master. Maintenant, beaucoup en formation continue et post-grade. Donc, c'est vraiment, on voit qu'on peut toucher tous les domaines, l'adapter, pour autant que derrière, et je remercie cette première intervention qui a été faite, pour autant qu'on réponde aux besoins pédagogiques et donc aux objectifs qui sont fixés. Dans tous les domaines, on l'a dit. Là, c'est des exemples de pratiques. Évidemment, il y a la dimension relationnelle, communicationnelle, mais il y a aussi les compétences techniques. Des compétences qu'on peut allier entre dans la simulation hybride, hein, entre mannequin et puis patient simulé, donc pallier justement aux limites de ce que peut être un patient simulé, ce qu'il peut produire. Toutes les compétences procédurales, les situations d'urgence, donc je crois que c'est à l'infini et que dans ce type de programme, une des grandes forces, c'est vous, parce que vous êtes créateur, et ça pousse à la créativité. Créativité, ça c'est vraiment la base, mais après, cadré grâce à des standards de pratique qu'on nous donne dans différents domaines, enseignement, évaluation, prestation de services. Comme je vous disais, il y a eu cet exemple de formation des étudiants, mais aussi des enseignants, où on va travailler avec des étudiants simulés, des enseignants simulés. Dans un cadre de recherche, il y a beaucoup de recherches hein, où on travaille avec les patients simulés pour pouvoir rendre la situation standard et reproductible, pour travailler par exemple sur le raisonnement clinique. Enfin, il y a nombre d'études. C'est presque à l'infini. Quelques mots sur ASPI, donc l'association des éducateurs de patients simulés. Une association qui est basée aux États-Unis, mais qui est internationale, et qui travaille avant tout à transformer la performance professionnelle à travers l'interaction humaine. Je pense que les valeurs centrales dans ce type, avec ce type d'association, c'est de placer l'humain au centre de l'interaction. De pouvoir développer aussi une éthique, travailler sur l'apprentissage expérientiel d'humain à humain. Et on se plaît beaucoup à dire que finalement, s'il devait y avoir un outil de très haute fidélité, je ne pense pas que c'est le mannequin. À part l'humain, je ne vois pas qui ça peut être. Parce qu'il y a toute la complexité et ça permet de pouvoir vraiment travailler tous ces aspects pédagogiques. ASPI, c'est aussi la possibilité de pouvoir se professionnaliser, recevoir de la formation continue et du développement professionnel au sein de cette association. Il y a des webinars, il y a surtout la conférence, il y a des groupes, des SIG, ce qui permet aussi de pouvoir s'intégrer et puis se familiariser aux valeurs que porte cette association et à ses standards. Et puis également, elle a notamment, si vous êtes sur Facebook, c'est tout bête, mais il y a depuis 6 mois, une année, une possibilité de disséminer et de recevoir de l'information sur les dernières publications, etc., en lien avec les patients simulés. Il y a aussi des listes, listserv, ce qui permet de pouvoir s'inscrire et suivre toutes les discussions qui se font au sein de l'association. Et c'est les membres qui posent des questions et tous les collègues y répondent. Et ça permet de pouvoir aussi se former, se tenir au courant de ce qui se fait. ASPI, en mai 2017, c'est 700 membres. Vous avez vu, très peu de pays en développement encore, beaucoup de membres en tant qu'individus, membres institutionnels aussi, c'est la grosse majorité. Il y a des membres à vie et on a aussi des patients simulés qui sont membres de cette association. Une augmentation en nombre, on le voit aussi en 2017, on atteint 700 membres. On est répartis sur tous les continents, 26 pays représentés, avec de gros projets aussi en Asie, une recrudescence d'affiliation, on en a 6, avec ASPI avec un H, donc c'est les Anglais, enfin partie anglophone, la Société internationale de simulation, la Société européenne de simulation, SESAM, l'Association internationale des soins infirmiers, en lien avec la simulation. Et puis, ce réseau international où il y a un certain nombre de je crois que la France en fait partie du reste, la Suisse aussi. C'est un réseau international de sociétés nationales qui se retrouvent et où on distille et on discute les standards de pratique. C'est Global Network for Simulation in Healthcare. Voilà, vous avez la liste aussi des pays membres, des membres qui sont présents dans l'association. Donc, on voit vraiment que ça touche tous les continents. ASPI a eu un gros projet dernièrement, c'était de poser les standards de bonne pratique, publié en 2017 dans Advances in Simulation, que je vous conseille vivement, si vous développez ce type de méthodologie, de vous y référer. Ça a permis de poser un cadre assez large et évolutif pour que ça puisse correspondre aux différents contextes dans lesquels nous sommes impliqués et d'application de cette méthodologie. Et ça a été fait, ça a été mis en place sur la base du dictionnaire et en lien avec IMSH, donc l'Association internationale de simulation, SSH, dont le IMSH, c'est le meeting en fait, qu'ils organisent annuellement. Vraiment en étant de concert et en travaillant en collaboration avec la Société internationale de simulation sur la base de ce qu'ils avaient déjà posé, mais aussi avec INAXEL, qui avait posé un certain nombre de standards pour les soins infirmiers. Et ces standards de bonne pratique, ils sont en lien avec un certain nombre de valeurs. La sécurité, évidemment, qui est centrale en simulation et jamais jamais la première fois sur un vrai patient. Donc, c'était de rigueur, bien sûr, de mettre en place cette notion de sécurité. Sécurité aussi de tous des participants, mais également des patients simulés à un niveau physique, à un niveau psychologique. La notion de qualité avec une amélioration constante et la prise de conscience de cette évaluation du contrôle qualité pour être dans cette amélioration constante. Professionnalisme, c'est-à-dire, c'est défini de cette manière-là, c'est d'appartenir à des communautés de pratique qui permettent de pouvoir disséminer et intégrer un certain nombre de valeurs, une éthique, les standards. Le fait d'être responsable, ça correspond de correspondre aux besoins pédagogiques de l'institution, des programmes, mais également de pouvoir communiquer sur cette méthodologie au grand public et dans un processus collaboratif par rapport aux différents moyens que nous propose ASPI, comme je disais, cette listserv, ça permet vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir créer des projets, de collaborer entre nous pour créer une communauté de pratique. Actuellement, on est en cours de traduction en français des standards de pratique. Donc, il y a aussi toute une discussion qui va se faire au niveau des concepts. Donc, Anne et moi-même, on a été chargés par le comité international d'assurer cette traduction. Et on y démarre. Donc, on espère une publication. On verra quand, mais en tout cas, on vous tiendra informés. Et puis, par rapport à ça, juste revenir par rapport à ces standards de pratique qui ont été posés dans les 5 domaines. C'est 8 pages, mais 8 pages essentielles pour vous si vous êtes intéressé au programme des patients simulés. Donc, les standards de pratique vont toucher l'environnement sécure de travail, confidentialité, respect, assurer un cadre d'accompagnement qui permet cette sécurité du patient, des étudiants, de l'enseignant, de la situation elle-même. Un des autres domaines qui a été traité, c'est le développement de cas, donc de cas de patients simulés, c'est-à-dire les scénarios, les grilles, tout ce qui va avec. Donc, c'est toute la dimension de préparation d'une situation d'enseignement ou d'évaluation, tous les composants des cas. Un autre domaine traité, c'est la formation des patients simulés, en lien avec, bien sûr, le rôle que le patient va prendre, la formation au feedback et à tous les instruments qu'il pourrait utiliser, remplir les checklists, les questionnaires, etc. Un autre domaine de standard de pratique posé, c'est le management de programme. Même si on est dans des configurations complètement différentes, on a certains programmes où il y a 12, 13 formateurs de patients simulés, certains n'en ont qu'un, certains sont en train de les recruter. Donc tout ça permet de pouvoir poser un certain nombre de standards pour pouvoir entrer dans ce processus de créer un programme en tant que tel. Sans que ce soit cloisonné. Donc, c'est vraiment des standards qui sont ouverts en lien avec poser des missions, des objectifs, d'avoir une planification de programme, une stratégie de management des patients simulés, mais aussi de l'équipe, avoir un certain nombre de procédures dans le programme. Donc, tout ça est bien décrit. Et puis, le dernier domaine, c'est le développement professionnel. Et ça, on ne le dira jamais assez. Être formateur de patients simulés, c'est une profession en tant que telle. Chez nous, c'est émergent. Aux États-Unis, c'est des 100% et des 100% et des 100%. Donc ça, c'est vraiment une profession en tant que telle. Souvent, nous, on les cumule. En ce qui me concerne, moi, j'ai eu la chance de pouvoir être, à un certain moment de mon parcours, responsable du programme patients simulés et n'avoir que cette casquette. Et je pense que ça, pour un programme, c'est du temps protégé et c'est jamais de trop. La future conférence de ASPI, celle de 2018 à Kansas City, vous avez les dates. Il est encore temps de s'inscrire. Sinon, sachez que le comité international aussi est impliqué à l'EMI, donc, qui aura lieu en Suisse, à Bâle. Et on a une demi-journée cette année de pré-conférence, où c'est un moyen de pouvoir se former en Europe. Et la deuxième demi-journée sera utilisée pour présenter les standards de pratique. J'aurai la chance de pouvoir les présenter avec ma collègue allemande, Henrike Holzer. En Suisse, on a aussi, je me permets un petit coup de pub, un programme, une conférence suisse de patients simulés depuis 2009. Donc vous êtes les bienvenus. Save the date, donc c'est le 11 au 13 septembre 2019 et ce sera à Berne, très belle ville. Voilà, avec c'est en anglais parce que nous en Suisse on a l'enjeu, contrairement à chez vous, c'est la langue. Donc du coup on a choisi la langue scientifique. Et puis une dernière information, une formation de formateur de patients simulés en français. Avec le docteur François Lecomte, il y aura une première mouture qui sera proposée pour vous le 7 et 8 juin, ainsi qu'en septembre. Donc, si vous avez un intérêt, sous forme d'atelier, on va aborder un certain nombre de thématiques. Donc, c'est vraiment se former à être formateur patient simulé, au développement d'un cas, comment est-ce qu'on le fait d'un point de vue de formateur patient simulé, de clinicien. Formation de patients simulés, comment est-ce qu'on recrute les patients, comment est-ce qu'on gère un programme. Donc tout ça sur 2 jours. Merci de votre attention et on va ouvrir un petit peu la discussion. J'ai pris quand même pas mal de temps, mais je parle moins vite que les Français. Merci.
Moi, j'avais une petite question de de formateur de base. Je suis gynécologue-obstétricien et je travaille au CHU de Caen. Comment est-ce que... Enfin, là, j'ai l'impression que quand vous parliez de la formation du patient simulé, vous parliez de la formation d'un patient simulé pour une situation clinique particulière. Ou est-ce que vous les est-ce que la formation est quelque chose de plus global? Et ensuite, il y a une deuxième partie de votre formation qui est dédiée à le former pour une situation clinique ou pour un cas clinique particulier. Comment est-ce que vous...
Merci beaucoup de la question, parce que justement, il y a un élément que je voulais apporter là-dessus. Et donc du coup, nous, comment on fonctionne, ou comment les programmes fonctionnent? Je dirais qu'au plus pressé, souvent, on démarre en formant les patients, et puis je pense que c'est essentiel parce que c'est pour ça que ça se met en place, à la situation clinique. Donc on développe un scénario, les grilles qui vont avec, tout ce qu'on attend en fait du patient, et les patients, c'est là-dessus que je voulais mettre aussi l'accent, pourquoi la formation est importante dans cette standardisation ou harmonisation du jeu, ils sont formés en groupe. Donc ils s'observent les uns les autres par rapport à la situation et au jeu dans lequel ils vont être impliqués. Et ça, c'est essentiel. Nous, par exemple, dans le cadre du feedback, dans certaines situations pédagogiques, ils vont jouer, mais aussi donner du feedback. Celui qui est souvent très productif, c'est quand il y a un échange avec l'étudiant, donc c'est un feedback oral structuré. Et pour chaque situation, nos patients sont formés à jouer et à donner du feedback de manière spécifique pour la situation en tant que telle. Donc on peut arriver des fois à 8 heures de formation. Hein. Voilà, selon les situations, quand on est dans des situations d'annonce de mauvaises nouvelles ou des situations délicates en psychiatrie ou en communication, ça peut prendre une grosse ampleur. Voilà, donc ça c'est une chose. Après, il y a aussi la mise en place de situations d'enseignement pour les patients, je dirais de développement professionnel général, puisque comme vous le relevez également hein, dans le débat qui a été fait par ailleurs, le patient c'est un acteur, mais il intervient dans un contexte pédagogique. Donc, il a aussi des compétences pédagogiques. Et ça, ça ne s'improvise pas. Enfin, on voit combien c'est difficile pour nous d'enseigner. Je pense qu'on se retrouve toujours devant des situations délicates. Donner du feedback de manière constructive, c'est essentiel pour éviter, on parle même maintenant, de stress post-traumatique en simulation. Donc, je pense que tout se prépare. Et donc, il y a des formations de base sur des ateliers, je dirais, qui permettent de développer des compétences en communication, sur les programmes, sur comment donner un feedback qui se met en place. En tout cas, moi, je le fais. Après, le gros enjeu, c'est la rémunération. Un patient simulé, en Suisse, on a eu cette réflexion en Suisse romande, c'est de se dire, ben, combien on le paye hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est des bénévoles voilà. Alors après, évidemment, c'est institution dépendante. Néanmoins, la Suisse, c'est quand même assez petit, la Suisse romande aussi. On a certains patients qui passent de centre en centre, entre Lausanne, Neuchâtel, certains vont aussi à Genève, donc ça tourne, ce qui donne des patients extrêmement compétents, et, parce que ça fait un certain nombre d'années aussi qu'ils sont dans le programme, très fidèles, mais c'est du travail, c'est des compétences. Et je pense que si vous voulez avoir de la qualité, il est important aussi de reconnaître ce qu'ils font, et donc de les rémunérer. Et en Suisse, le minimum, ça fait 30 francs de Suisse de l'heure, on les paye pour la formation et pour leur participation. Donc ça fait à peu près, je pense, 25 euros, quelque chose comme ça, de l'heure. Mais la formation est également payée, parce que ça, c'est aussi un débat qu'on a eu, mais quand on se forme, on acquiert des compétences, OK, pour être productif en Suisse, ensuite. Par contre, si vous voulez assurer leur présence, vous voulez assurer la qualité de cette formation, eh bien, de protéger ça aussi en les rémunérant, en montrant, parce que c'est pas beaucoup, enfin, pour nous, c'est pas beaucoup, en tout cas 25 euros de l'heure, donc par rapport à tout ce qu'ils font et toutes les compétences que ça demande, donc du coup, on tenait à marquer le coup. Mais par contre, ça coûte très cher. Ce qui coûte cher dans ce type d'activité, et je remercie encore Antonia de l'avoir relevé, parce que c'est sûr que ça a un coût, mais entretenir le mannequin et tout ce qui va autour, ça a aussi un coût. Donc, de toute façon, la simulation, il ne faut pas se leurrer, ça coûte cher. Et bien, c'est surtout ce qui coûte cher dans un programme patient simulé, c'est cette période de formation. Merci de la question.
Merci. Il y a une autre, il y a plusieurs questions là et là-bas, je ne sais pas si.
Ma question est courte. Quel est l'intérêt ou les limites de faire appel à des acteurs professionnels pour faire les patients simulés?
Votre question est courte, mais on pourrait prendre toute la matinée pour y répondre. Bon, bah écoutez, ça va. Pardon. Il y a différents. On peut répondre sur différents plans, mais pour essayer de faire bref. Au niveau, alors je vais commencer par un aspect tout à fait simple, mais l'aspect pratique. Travailler avec des acteurs professionnels, c'est mon expérience et puis de ce que j'ai pu échanger aussi avec mes collègues, hein, donc rien de complètement documenté. Travailler avec des acteurs professionnels, c'est extrêmement bénéfique, je repartis avec ça. Sur le côté pédagogique et comme l'a relevé notre collègue de Rouen, c'est ça ? Pardon ? Pardon, de Rennes. c'est extrêmement bénéfique dans le sens où ils sont formés à plonger dans une émotion, ils n'ont pas peur d'aller jouer l'émotion, ils ont une capacité de pouvoir garder une distance par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, qui est très favorable pour ensuite garder un œil méta et redonner un feedback. Ça, c'est extrêmement précieux. Après, il y a aussi des challenges, parce que souvent, ils ont envie de jouer, quoi, comme se mettre sur scène, alors qu'on est plutôt à calibrer la situation par rapport au niveau de formation des étudiants ou des personnes qui vont subir ou vivre cette simulation. Donc ça, c'est aussi tout un enjeu. Néanmoins, sur un aspect très pratique, en tout cas de mon expérience, et je ne suis pas la seule, je me suis retrouvée, malgré la planification faite 3 mois en avance, parce qu'une activité, nous, on la prévoit à peu près 3 mois en avance quand on recrute nos patients pour une situation, et on s'est eu retrouvé, bec dans l'eau, dans le sens où ils avaient un contrat tout à coup professionnel qui leur arrivait de dernière minute et ils nous lâchaient. Et ça, c'est très problématique. Et dans cette notion de responsabilité qui est une des valeurs centrales de ce type de programme, c'est très difficile de pouvoir se passer d'un patient simulé parce qu'il y a une répercussion sur les autres, sur la qualité dans le sens où il va falloir faire travailler plus les autres patients simulés et donc des fois un peu de les surcharger au niveau de leur bien-être psychologique voire physique selon les situations, hein. Donc c'est problématique. Pour faire très simple, très court, mais juste deux points d'attention. Après, on pourra en discuter vraiment toute la matinée.
Je peux. Ma question se rapporte à la pédiatrie.
Oui.
Est-ce que la technique du patient simulé, l'approche du patient simulé, connaît-elle de limites ou est-ce qu'on peut l'envisager pour des domaines tels que la pédiatrie des très petits enfants, des nouveau-nés, dont on ne peut pas espérer la collaboration? Est-ce que c'est une limite ou est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des choses qui se font dans ce sens-là? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas enseigner à un bébé nouveau-né.
Alors, dans le domaine de la pédiatrie, il y a un certain nombre d'expériences qui ont duré quand même un certain temps et qui apportent un certain nombre de bénéfices. C'est sûr que c'est complexe parce qu'il y a toute cette... déjà, c'est des mineurs. Rien qu'au niveau stratégie institutionnelle, c'est comment est-ce qu'on les engage? Quel suivi est-ce qu'on leur assure? Moi, personnellement, j'ai travaillé avec des adolescents. Donc il y a eu tout un screening et un suivi psychologique des adolescents qu'on avait recrutés qui n'était pas moindre. Donc ça a demandé un encadrement encore plus solide que ce qui était mis en place. Pour des enfants, au Canada, je sais qu'ils l'ont fait, il y a un certain nombre d'expériences où souvent les enfants viennent mais sont accompagnés de leur maman ou de leurs parents. Donc on travaille sur la dynamique, je dirais, familiale. Et puis, la personne qu'on va plutôt impliquer, je dirais, pour la simulation et former, ce sera la maman, ou le proche qui accompagne, l'adulte qui accompagne l'enfant, et en sachant aussi que, de manière très pratique, un enfant ne va pas pouvoir le faire travailler très longtemps, parce qu'il y a de la fatigue qui s'installe, et puis on perd son attention, donc c'est c'est vraiment pas évident. Pour les nouveau-nés, nombre d'expériences, en tout cas, dont j'ai eu connaissance, c'est l'utilisation de la simulation hybride. On peut faire des choses assez extraordinaires avec la simulation hybride, avec justement tous ces mannequins aussi qui sont mis en place, et où on peut intégrer cette dimension technique dans l'interaction. Voilà, je vous répondrai ça ce jour, en espérant que ça vous convienne.
Donc Pascal de Rennes, j'avais deux petites questions, une question assez pratique, parce qu'effectivement, c'est à vous entendre là, de dire vous avez des programmes pour des patients simulés, on se dit bah oui, il faut qu'on rentre là-dedans. On a un collègue de Lorient qui veut monter une formation pour des acteurs ou des patients qui deviendraient des patients simulés, donc s'il y a des choses qui existent, peut-être pas réinventer l'eau chaude, donc voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller chercher ça, notamment sur dans votre association ? Puis j'avais une question un peu plus générale à vous écouter, ça m'a fait penser, on commence en France à parler de patients formateurs dans les facs, que ce soit au niveau formation initiale ou formation continue. Ça existe depuis un moment en éducation thérapeutique, hein, sous le vocable patient expert. Donc comment est-ce qu'on pourrait, parce que vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas très chaude sur le fait d'utiliser des associations de patients, donc moi pareil, ça me parle ce que vous dites, mais du coup, est-ce que vous faites un lien avec cette démarche de, parce que vous disiez, ben voilà, ce qui est le plus important, c'est de les emmener dans l'enseignement. Voilà, tout d'un coup, je me suis dit, il y a sans doute un truc. Nous, en éducation thérapeutique, on a comme projet de faire quelque chose justement avec des patients experts.
Des patients experts.
Les former à la simulation pour justement le débriefing. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas, est-ce que là aussi, il y a des choses. Pardon, j'étais un peu long.
Alors, très très vite, et c'est vrai que j'ai exclu volontairement cette dimension de la présentation, mais je vous remercie de le ramener. Très très vite dans ce type de programme, et lorsque ça a été créé, Rex Gale, la première définition que je vous ai présentée, elle a travaillé avec Howard Barrows, mais aussi avec Paula Stillman, qui a mis en place ce programme de patients-instructeurs. Donc des vrais patients au service de la formation, dans un cadre de simulation. Donc il y a vraiment tout un pan et beaucoup, enfin de la littérature aussi sur ce sujet-là. Donc je vous invite à aller consulter ce pan de littérature. Personnellement, j'ai travaillé avec des personnes qui ont souffert de polyarthrite rhumatoïde, des personnes qui étaient dépendantes de l'alcool, mais en rémission, simplement des fumeurs, des personnes qui ont souffert aussi du cancer du sein. Et donc là, on voyait que les retours qu'ils pouvaient donner et la place que ces patients pouvaient prendre dans le débriefing était tout autre quand on travaillait avec des personnes qui avaient vraiment vécu cette situation. Donc, on a travaillé avec des vrais patients, on a travaillé avec des associations de patients, avec des médecins aussi qui suivaient des patients et avec qui on a posé un certain nombre de critères de recrutement, notamment pour les patients qui avaient souffert d'alcoolisme, d'avoir eux-mêmes étant en rémission et en étant abstinent depuis plus de 2 à 3 ans, je ne sais plus quel est 2 à 3 ans, et puis d'avoir eux-mêmes suivi une psychothérapie, et puis on avait un suivi de nouveau des patients, parce que ça, je pense que dans ce type de programme, et de nouveau quand on parle de temps protégé pour pouvoir animer ce type de programme de patients simulés, un des aspects importants, c'est le suivi qualité et puis l'accompagnement des patients. Et donc pour des vrais patients, je pense que cette notion de suivi, elle est essentielle. Parce qu'on voit, c'est très valorisant que de pouvoir venir reparler de ce qu'on a pu dépasser soi-même et redonner dans un cadre de formation, mais on a quand même été fragilisé et donc il y a tout un suivi. Les étudiants, des fois, sont maladroits ou même les professionnels. C'est comme ça, on est dans un cadre de formation. Donc de pouvoir toujours garder cette distance par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est essentiel. Et il y a une notion de standardisation parce qu'évidemment, les patients qu'on recrute, ils viennent tous avec des histoires très différentes, très complexes, souvent avec un long passé médical. Donc, il faut l'affiner, l'adapter, l'ajuster aux objectifs pédagogiques. Donc ça, je dirais que c'est là où est le gros enjeu dans ce type de formation. Et puis, de nouveau, un aspect très pratique. On est toujours sur c'est la monnaie d'une même pièce. Il y a le côté pratique et l'aspect pédagogique et clinique. c'est le temps que peut travailler un vrai patient. Nous, nos patientes qui souffraient de sclérose en plaques, au bout de 2 patients, 3 patients, c'était plus possible, elles étaient fatiguées. Certaines, tout à coup, le matin, elles ne pouvaient pas venir parce que voilà, elles étaient juste pas bien. Donc voilà, donc ça donne quelque chose, je dirais, au niveau organisationnel, qui est très demandant, mais d'une valeur ajoutée tout à fait particulière. Mais nous, on a, même si certains de nos patients instructeurs travaillent aussi dans le cadre de la simulation, donc jouer des rôles tout venant, la plupart d'entre eux préfèrent jouer vraiment, s'identifient à ce titre de patient instructeur et restent dans leur propre programme. Une chose encore, à l'Université de Montréal, où ils ont développé la notion de patient expert, on a eu plusieurs rencontres avec eux, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller leur rendre visite. C'est tout un débat de savoir si c'est patient expert. Finalement, c'est un des formats, la simulation, pour les impliquer. Et ça ne reste qu'un outil et une méthodologie au service de la formation. Merci.
On va peut-être une dernière question, réflexion, mais soyez court, parce qu'après, il y a une petite pause quand même. On vous doit la pause.
Et tu n'oses pas dire que mes réponses devraient être plus courtes, hein, mais...
Non. Tout le monde. 2 minutes.
Juste par rapport à justement la question entre patient expert et acteur, moi la question que je me pose c'est finalement quelle est la légitimité de l'acteur à débriefer plus que par rapport à un patient, parce que moi j'ai vu des expériences de simulation où finalement on a demandé à l'acteur de débriefer par rapport à ce qu'il avait vécu, par rapport à un vécu potentiel de patient, or finalement le patient expert a quand même peut-être plus de légitimité par rapport à ça pour en parler. Donc c'est ma question du coup.
C'est pour ça qu'on disait, dans certaines situations, je pense vraiment, en psychiatrie, c'est aussi une grande question qu'on peut avoir, de savoir est-ce qu'un patient simulé peut donner un feedback, comment est-ce qu'il le donne, etc. Je pense que ça, je vous en parle parce que c'est vraiment une des questions qui m'importe beaucoup ces temps, étant retournée en partie en clinique et en voulant allier simulation psychiatrie. Je dois dire qu'un patient simulé formé à donner du feedback, ça a un grand pouvoir formateur. Un patient simulé, c'est un faux patient, mais c'est une vraie personne, je le dis tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ce qui s'est passé dans l'interaction, et pour autant qu'il apporte ce qu'il a vécu, personne ne peut lui l'enlever. Il parle en termes de jeu, il parle de son expérience par rapport à une situation quand même qu'il a pu intégrer au fur et à mesure de la formation, qui vit dans ses tripes. Maintenant, pour certaines situations complexes ou très fines, c'est sûr que ça a ses limites. Et je pense que c'est aussi l'enjeu du formateur de patients simulés, mais également de l'enseignant qui demande les services de ce type de méthodologie, que de fixer quels sont les objectifs de feedback. Ça, c'est essentiel. Comme tout outil, ça a ses bénéfices et ça a ses limites. Et comment l'utiliser au mieux ?
On va peut-être s'arrêter là, parce que là, vraiment, on a largement dépassé notre temps, on est venu nous le dire. Merci beaucoup pour cette intervention, pour ceux que
merci
ça
à vous.
Intéresse cette thématique. On continue après la pause, on reprend avec d'autres topos très intéressants.